local et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip-hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 250 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis seront invités, il y aura plein d'activités. Parle-en, fais de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi chaque dimanche. Beats to eat, fresh paint pour des journées captivantes. Yeah!
Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le Bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le Bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Le Café Aquin, c'est le café étudiant des sciences humaines, sciences politiques et droit. Situé au deuxième étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030, il est ouvert à toute la communauté de l'UQAM. C'est un projet étudiant entièrement géré par ses membres.
Café filtre et spécialisé, sandwich, viennoiserie, jus, fruits et bien d'autres vous attendent dans une ambiance décontractée et propice au travail scolaire. Situé au deuxième étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030. Le café est aussi disponible pour organiser vos événements. Pour nous contacter, café.aquin@gmail.com ou poste 0291.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
Bonsoir, bienvenue à Pop en Stock, épisode 85. Ce soir, on va parler de Wayne's World, ce film culte sorti en 1992. Et j'accueille Éric Falardeau pour ça, donc méga tough, Éric.
Ah, méga tough, Hélène.
Éric est cinéaste et auteur, et ça me fait vraiment plaisir de l'accueillir ce soir pour parler de ce film qui a été, ma foi, très important dans ma vie. On parle des affaires que j'aime d'habitude, je n'ai pas pensé ça, et ça ne fait pas exception. Je pense que j'ai écouté ce film-là minimum une fois par jour quand j'avais 11 ans.
Ouais, ben c'est je pense qu'il y a toute une génération des années 90 qui a apprécié sa culture musicale à travers Wayne's World.
Oui, tout à fait. Wayne's World, en fait, c'est quand même un film, si pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le film, assez simple. Il s'agit de deux vingtenaires qui habitent encore chez leurs parents, qui habitent à Aurora, Illinois, en banlieue de Chicago, et qui ont une émission de télévision locale, une émission qui est repérée par un magnat de la pub, un peu. Puis cette personne-là, qui s'appelle Benjamin, c'est de vendre le show à un gros joueur des jeux d'arcade qui s'appelle Noé Vanderhoff. Et donc, Noé Vanderhoff devient, les Arches de Noé, qui est le nom de la compagnie, devient un commanditaire, un sponsor de Wayne's World, Wayne's World version corporate, et Wayne et Garth refusent d'être sponsorisés de cette manière. Et c'est ça pour l'histoire, mais en fait, la magie du film réside dans entre cette histoire-là, toutes les espèces de les scènes, les gags qui arrivent et qui sont qui ont donné lieu à des répliques cultes et plein de scènes importantes. Et c'est vraiment là que ça devient important.
Oui, effectivement. Qu'est-ce qui est amusant avec ce film-là, c'est qu'il y a aussi une trame sonore qui est arrivée avec, par-delà les scènes cultes, qui a permis d'ancrer le film dans une... Ouais, dans une sorte de mouvement des années 90, à la fois par-delà Queen et Bohemian Rhapsody, dont tout le monde se souvient la scène d'origine. Il y a aussi toute la vague là, de Ben qui revenait de hard rock comme Aerosmith.
Oui, en fait, c'est un film vraiment très définitif du début des années 90, avant que le grunge arrive. Le film est sorti le 14 février, donc à la Saint-Valentin, 1992, donc c'était vraiment...
Et ça, c'était la date du siècle.
Mais c'était vraiment juste avant que le grunge explose, que c'était plus en 93, si je me souviens bien. Donc, la fin là, de toute la période hard rock, glam metal des années 80, c'est comme la fin de ça, une espèce espèce aussi d'apothéose en même temps, mm-hmm. parce que Wayne et Garth sont de très grands fans de musique. On va en parler un peu tout à l'heure, mais ils ont tout le temps des chandails de Aerosmith, Motley Crue. Ouais.
Ben c'est comme donc... les fubars des années 2000. Là. C'est comme le renouveau du métal des années 2000 qui, en fait, était prédit dans Wayne et Garth leur fabuleuse garde-robe. Et surtout, Garth qui préfère les porter moulants et bien serrés. Voilà.
Wayne, ben, avec le lien canadien, en fait, que tu as avec Fubar, Wayne est joué par le comédien Mike Myers, un Canadien, et qui a commencé ce personnage de Wayne-là dans des parties tout seul avec, avec ses amis, avec sa famille. Et en fait, il s'est beaucoup inspiré de son frère, apparemment. J'avais déjà entendu ça dans une entrevue. Et donc, il a réussi aussi au début des... Non, à la fin, milieu des années 80, à être une... avoir une espèce de sketch qui s'appelle Wayne's Power Minute sur une émission qui s'appelait This is Rock and Roll à la CBC, donc à la radio, à Radio-Canada en anglais. Et durant, c'est disponible sur YouTube, là, vous pouvez la regarder, mais c'est très loin, moi, je trouve, du Wayne qu'on voit dans le film. Le Wayne qu'on voit dans le film est un gars qui est très heureux, qui aime être heureux, qui injecte sa joie de vivre vraiment à tout le monde autour de lui. Mais dans Wayne's Power Minute, c'est comme un grand chialeur qui dit comme « Ah, oh, mais pourquoi ça fonctionne pas de même? » Puis un moment donné, il dit qu'il joue de la musique, il joue de la air guitar. Donc c'est le lien avec moi,
ah,
ça.
Voilà.
Mais il dit comme « Mais tous les autres air instruments, là, c'est de la merde, tu sais, comme le air violin, c'est quoi ça? » Puis un moment donné, il y a aussi un rant sur les poignées de main. Comme il y a une seule bonne poignée de main, c'est la poignée de main est comme fermée virile, mm-hmm. mais toutes les autres, c'est de la merde. C'est vraiment étrange.
Ben, c'est peut-être son côté canadien. Tu sais, le mid-guy, l'habituel, travailleur, qui écoute du Rush, le premier album, vrai. Parce que c'est la musique des travailleurs canadiens. Là. Mais c'est vrai que l'influence de Saturday Night Live, par la suite, on la sent dans le changement de ton. Puis l'arrivée aussi du... la création du personnage de Dana Carvey, dont Mike Myers voulait pas créer, parce que justement, Dana Carvey était une plus grande vedette que lui. Donc, il essayait de garder cette petite... il voulait pas être éclipsé, finalement, et perdre son univers. Mais en bout de ligne, ça s'est révélé être un contrepoids parfait à ce qu'il a fait. Là, puis, justement, l'ajout d'invités, puis de développer le concept de finalement d'émission dans le sous-sol de ses parents, d'émission télé. Là.
Une émission TV locale, oui. Il y a très peu de sketchs de Saturday Night Live de Wayne qui sont disponibles sur Internet parce qu'il y a des questions de droits d'auteur, mais aussi, je pense, des questions de géolocalisation, tout ça. Mais on a réussi, Eric et moi, à en trouver un avec Madonna, donc un des plus connus. Un des sketchs de Saturday Night Live avec Wayne, donc avec Madonna, un des plus connus. Et je pense que tu veux...
je tenais absolument à parler des mégabonnes de la semaine. Donc, dans le film, ils ramènent ça avec Claudia Schiffer.
Oui, c'est ça. Dans les sketchs de SNL, il y avait beaucoup de tops, en fait.
Oui, des tops, des tops musicaux, des tops, toutes sortes d'affaires. Et le top des mégabonnes, bien entendu. Donc, des femmes sur lesquelles fantasmaient nos deux personnages. Et puis, donc, dans le sketch avec Madonna, en fait, ils ont sorti un top 10 qui était le top 10 de Wayne. Et c'est vraiment assez drôle, par contre, parce que dans ce top 10-là, il y a des invités ensuite qui se sont présentés dans les sketchs à Saturday Night Live, mais qui ont aussi fait partie des films. Alors, c'est assez drôle. Donc, selon leur top 10, donc en 10e position du Wayne Top 10, Julia Roberts, Schwing. Elle Macpherson, quand même. Josephine Baker.
Josephine Baker?
Ben oui.
Ça, c'est surprenant, ma foi.
Ça, c'est pour déstabiliser le spectateur moyen. Betty Rubble. Farrah Fawcett.
Oui, ben ça...
quand même, hein? Non, mais... Ouais. Showing. Irene Ryan. Aucune idée, c'est qui? Heather Locklear, bien entendu.
Ah oui, mais elle apparaît dans le deuxième aussi.
Oui, elle est là dans le deuxième. Elle connaît Bobby, qui est ce bon personnage joué par Christopher Walken et qui essaie de voler Cassandra à Wayne.
Mais apporte aussi, juste comme pour te couper un petit peu, Heather Locklear, dans le 2, apporte une espèce de chemise avec... Ça, c'est tellement début années 90, j'en reviens pas comment ça se fait que ça peut être populaire. Avec une espèce de bandeau élastique au poignet, puis des grandes manches, des manches bouffantes jusqu'au poignet, puis une espèce de grande frange là, qui recouvre les mains. C'est affreux. Je comprends pas comment... Puis je voulais ça à l'époque, j'en ai fait, je suis comme, ah, oh, son main est beau. Non! OK, c'est pas continuer.
C'était peut-être à cause aussi de ses relations intimes à Heather Locklear. Oui. Hein? On sait qu'elle a été avec Tommy Lee, ensuite qu'elle est partie
Richie
pour
Sambora.
Ce merveilleux Richie Sambora.
Oui.
En troisième position, la mère de Garth. Ce qui est quand même étrange parce qu'on n'a jamais vu les parents de Wayne et Garth dans les films et ni dans la série, à ce que je me souviens, ni dans les sketchs à Saturday Night Live.
Non, mais c'est ça.
Donc, qui sont-ils?
Mais c'est ça le, hein? La joke.
C'est ça la blague.
C'est sûr que c'est ça la
Ils sont
blague.
Pas là. Même si, bon, en tout cas, on pourrait leur dire qu'ils sont des bons parents pour laisser les enfants faire tout ce qu'ils font. Kim Basinger, en deuxième position. Donc, Garth a pu gentiment connaître, donc découvrir les mystères de la femme, comme il l'a dit si bien dans le deuxième épisode. Et en première position, ben, la Madone, bien entendu, Showing, donc dans ce sketch.
Chapiteau
d'honneur à la mégabonne de la semaine, Madonna.
Et dans ce sketch-là, il y a, donc ils reprennent l'esthétique du clip Justify My Love. Et puis c'est le premier, j'ai lu que c'est le premier baiser de Mike Myers à l'écran.
Oh!
Donc, il était super gêné. Puis, on s'entend que Madonna aussi, à l'époque, mais même aujourd'hui,
ben
là,
oui.
comme, elle intimide vraiment beaucoup. Moi, je rencontrais Madonna.
Ben, je serais gêné, moi aussi, je pense que...
Et oui, c'est bien drôle, en fait, ce sketch-là. Puis aussi, qu'est-ce que... J'avoue, moi, j'étais nourrie vraiment au petit lait du film et... voir un ancien, un vieux sketch comme ça, ça m'a fait découvrir qu'en fait, toutes les expressions, beaucoup d'expressions du film, la présence de la chanson Dreamweaver de Gary Wright, le comme Monkey Fly Out of My Butt, tu sais, comme les. ça faisait partie, en fait, de l'univers de Wayne, du monde de Wayne, avant le film. Donc, il y avait vraiment tout un univers qui était déjà créé autour quand ils sont arrivés au film. Ce qui est vraiment un avantage aux questions par rapport à aux questions de jeu et d'acting, parce que les personnages étaient déjà tellement bien ancrés dans la réalité de Mike Myers et Dana Carvey en particulier, qu'ils pouvaient filmer très rapidement, ils pouvaient faire des scènes vraiment...
Mais d'ailleurs, c'est le premier... le producteur de Saturday Night Live à l'époque...
C'est Lorne Michaels.
Qui venait de signer un contrat avec Paramount, puis justement, voyant... ces deux personnages-là, puis voyant l'intérêt, c'est comme ça qu'il a proposé de faire le premier film de la vague de films Saturday Night Live, tu sais, en une flopée des années 90.
Oui.
Donc, c'était Wayne World. Parce que, bon, il trouvait justement que c'était les mieux typés. Puis en plus, ben, Dana Carvey était quand même une des stars à cette époque-là. Donc, il a dit, on va y aller avec celui-là comme premier film de la série. Puis en 92, et avec Penelope Spheeris, justement, la réalisatrice. Donc, c'était pas mieux choisi pour justement parler avoir un univers musical, parce que, bon, c'est la réalisatrice de Decline of Western Civilization. Entre autres choses.
Part 2, Part 1 et Part 3
aussi. Et même, elle a réalisé les trois. Mais donc, The Metal Years, qui est celui que moi, je préfère parce que, bon, c'est mon enfance. les punk,
mais
j'étais
pas
là.
Fascinant, ça fait le moment. Là, on fait un petit aparté sur Decline of Western Civilization, mais c'est un documentaire absolument fascinant, justement, sur le déclin complet de cette scène où tout le monde est drogué et alcoolisé, à souhait.
Mais qui n'est pas loin de rejoindre les deux films, finalement, Wayne's World 1 et deux à travers certains personnages comme Del Preston dans le deuxième, le roadie qui organise les tournées, ou encore dans le premier le personnage, non c'est dans le deuxième qui revient
le gros personnage
de Chris Farley, ben oui je vais
il
me trouver un mec à bastonner
il fait une apparition comme gardien de sécurité dans le premier, puis dans le deuxième c'est un autre rôle complètement, mais c'est le même acteur, moi ça m'a complètement mélangé quand je l'ai vu, je suis comme ben c'est le gardien de sécurité qui aide pour Wayne Stock
effectivement, puis bon qu'il y a toute comme une récupération de ce genre d'univers-là, malgré tout, qui faisait partie de ces documentaires Penelope Spheeris, mais qui n'est pas revenu pour le deuxième, de toute façon, pour la réalisation. Là, parce que, bon, elle a eu des différends avec ce bon vieux Mike Myers au niveau du Final Cut, puis elle c'était difficile à gérer. Puis pour le deuxième film, le réalisateur de son petit nom, donnez-moi un petit instant, je me suis noté, mais j'oublie tout le temps, Stephen Sergic, qui est en fait un réalisateur canadien, un ami de Mike Myers, qui a réalisé des contes d'Avonlea, entre autres choses.
Eh bien.
Donc, c'est assez intéressant, mais il réalise encore de la télé énormément au Canada. Donc, tout est bien qui finit bien. À ce qui paraît, ils se sont réconciliés, Penelope Spheeris et Mike Myers. Donc, dans le monde des stars, rien ne dure.
Mais c'est un film qui a tellement d'importance. On va en parler à la fin de l'émission. Il y a tellement de répercussions qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu tata d'être en chicane comme ça, parce que c'est un film qui ça a tellement pogné. Tu as dit tout à l'heure que c'était... le premier de la série des films tirés de Saturday Night Live durant les années 90. C'est un fait, mais c'est le deuxième film tiré de Saturday Night Live. Le premier, c'était Blues Brothers.
C'est vrai, Blues Brothers.
Au début des années 80. Mm. Donc, il y a une douzaine d'années, finalement, entre les deux. Il n'y a pas eu de film de Saturday Night Live durant les années 80. C'est durant les années 90 que ça a vraiment explosé. Et Wayne's World, je pense, c'est le plus populaire, là, tous les films.
Oui, effectivement.
De
SNL. Ensuite, c'est Blues Brothers. Puis ensuite, il y a tous les autres, là, Superstar, puis Night at Roxbury, qui ont, encore une fois, qui ont marqué les années 90, mais qui sont typiques d'une époque aussi. En tout cas, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, là, mais.
On va passer à un premier extrait, une première chanson, en fait.
Parler.
Oui, c'est ça. Ça va être Foxy Lady de Jimi Hendrix. Mais en fait, elle n'est jamais nommée cette femme de rêve dans le premier.
Ben oui. Non, c'est l'idéal. Comment il l'appelle à la fin? Féminin. Mon idéal féminin, effectivement.
Cette actrice-là est l'épouse de Dan Aykroyd.
Oh, quand même!
Qui eût cru?
Qui l'eût cru, effectivement.
Donc, allons-y. Alors, de retour à ce spécial Wayne's World. Gigatoff! Avec Éric Falardeau. Là, on va parler... Là, c'est sûr que ça va déraper durant le prochain bloc parce qu'on va parler des scènes cultes qui nous ont marqué Éric et moi. Donc, c'est sûr là, qu'on va commencer à essayer de recréer les dialogues et tout. Je pense que la scène là, qui me fait tout le temps tellement rire, puis quand j'étais enfant, je faisais des rewinds, puis je la recommençais, là. C'est l'épisode dans les rues, en fait, où ils jouent au hockey.
Mmh.
Voiture!
Ben oui. Engagement! Beep,
beep. Engagement! Engagement!
Voiture!
Et puis, avec cette ligne culte qui disait « Même Led Zepp n'a pas essayé d'écrire des chansons universelles. Ils ont laissé ça aux Bee Gees. » À ce jour, c'est comme... En effet. Oui. Ils ont tout compris, la musique des années 70, avec cette phrase-là. Toi, une scène culte, à quelle tu penses?
Moi, il y en a plein, mais particulièrement celle que j'aimais, c'était dans le deuxième Wayne's World avec Del Preston et l'anecdote des 1000 M&M pour Ozzy, qui refusait de monter en scène s'il n'avait pas ses 1000 M&M. Puis surtout qu'ils sont obligés, lui et le roadie, d'aller entrer dans un magasin par effraction. Et puis, il y a le proprio et son fils qui se pointent et ils sont obligés de les battre à mort avec leur propre godasse. Mais heureusement, ils ont rapporté les 1000 M&M. Ozzy est monté sur scène et il a joué comme un dieu.
C'est sûr que c'est une petite référence à David Lee Roth.
Ben oui, c'est une histoire de...
Non, le fait que Van Halen refusait d'avoir des M&M de couleur brune dans leur loge. Mais ça, il y avait une très bonne raison qui est beaucoup trop compliqué à expliquer ici maintenant. Vous pouvez lire mon livre si vous voulez en savoir plus, ou juste aller taper David Lee Roth M&M sur Google et ça va vous mener vers l'explication. Voilà. Une autre scène que j'aime vraiment beaucoup, en fait, tout ce que je connais de Milwaukee, je le connais de Alice Cooper dans Wayne's World 1. Donc, Wayne et Garth se vont donner des billets backstage pour aller voir Alice Cooper par Benjamin, en fait. Benjamin qui essaye de voler Cassandra. Bien entendu, de séduire Cassandra, qui est là.
Vibrer pour son plaisir.
Et donc, il se retrouve backstage à rencontrer Alice Cooper. Et qu'est-ce qui est vraiment bizarre dans la traduction française, c'est que Alice Cooper est pas doublée de manière... Non, il est pas comme la doublure est pas par-dessus. Donc, on entend un peu comme les entrevues à Découverte, là, on entend tout le temps la voix de Alice Cooper. Puis là, il y a comme... un bonhomme super sérieux qui parle, qui n'a pas du tout la voix d'Alice Cooper. Alors oui, Milwaukee.
Milwaukee est une ville
Il disait que le nom provient de Milwaukee, ce qui veut dire en algonquin la bonne terre.
Ah oui, c'est ça. Mais cet homme a le sens de la fête.
Mais cet homme a le sens de la fête ou quoi?
Oh. On n'est pas digne, on ne mérite pas, à la fin,
qui dit la fameuse ligne « we're not worthy » en anglais et en français. On n'y arrive pas, on est tout petit, on est à chier,
on n'est pas digne. Mais si, vous êtes digne, mais si, levez-vous.
Mais ça, c'est dans... ça, c'est avec Aerosmith.
Ouais, c'est avec Aerosmith. Aerosmith.
Une autre scène avec une référence musicale, c'est lorsque... Wayne veut acheter la Fender Stratocaster blanche.
Oui.
Qui coûte très, très cher. Et il veut... donc, il l'a entre ses mains et il veut jouer quelque chose. Et il commence les notes et le commis, le « je peux vous aider », l'arrête immédiatement, le pointe vers un signe qui dit « no stairway! C'est dingue! » Et ça, vraiment, en fait, Led Zeppelin a refusé les droits de cette chanson-là, donc c'était vraiment « no stairway ».
Ah, oh, mon Dieu! Donc, ils l'ont repris à leur compte pour la blague. Ça, je ne savais pas.
Oui, ça, je l'ai lu dans les petites recherches que j'ai faites pour l'émission aujourd'hui. Mais en fait, Led Zeppelin sont très, très chiches sur les droits d'auteur qu'ils donnent aux films. C'est très rare qu'ils en donnent. Il y a eu School of Rock récemment.
Il faut que ça paye.
Ouais,
je sais pas trop.
Ouais, ouais,
on sait pas. On sait pas dans on la tête pas. De ces rockstars, mais comme dirait si bien Garth, un jour ma frangine a tenté de me piquer mon disque de Led Zeppelin et je lui ai dit non, sûrement pas.
Dans le deuxième.
Oui, c'est dans le deuxième. Moi, j'ai beaucoup de références du deuxième.
C'est ça, ouais, mais c'est bien correct parce que moi, j'en ai pas. Parce que peut-être que c'est quelque chose qu'on va aborder à la fin de l'émission, mais le deuxième, je trouvais qu'il n'y avait pas la magie du premier.
Non, il y a beaucoup. Mm. De toute façon, tout le monde s'accorde là-dessus, là, mais pour moi, il y a des belles scènes et des beaux moments d'anthologie.
Oui,
dont justement une de mes deuxièmes qui est Gordon Street.
Oui,
donc,
avec Charlton Heston.
Ben oui, donc quand Wayne s'en va retrouver Cassandra à son mariage, comme dans le lauréat.
Et puis il arrête
à une station-service parce qu'il trouve pas c'est où. L'église sur Gordon Street et puis il y a un acteur vraiment mauvais qui sort puis qui commence à lui raconter son histoire. Je me souviens, Gordon Street, une fille sur Gordon Street. Et il dit non, on peut pas se payer. Quand même, on le sait que c'est un petit rôle, c'est un film pourri, mais c'est un bon acteur. Il y a Charlton Heston qui nous fait le monologue sur Gordon Street qu'il a perdu cette femme et c'est un moment touchant.
Oui, c'est un moment touchant, c'est vrai. Puis c'est vrai que dans le deuxième, il y a beaucoup de références comme... au fait qu'ils font un film, comme quand ils vont en Angleterre, il y a comme les doublures, puis c'est manifestement pas du tout Mike Myers et Dana Carvey. Ils sont comme... C'est pas la bonne grandeur, carrément. Ben, je pense qu'on voit le petit avion, on voit le fil.
Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ça rentre bien dans l'idée de la fin du premier avec les plusieurs fins qui attestent justement, oui. qui est vraiment conscient d'être dans un film puis de faire la Scooby-Doo, oui. justement, de faire plusieurs fins puis d'essayer de, puis de dire vraiment on joue avec ça. Puis toute la construction des deux films, comment ils peuvent rendre les personnages amusants et agréables et aussi de nous identifier à travers le bris du quatrième mur.
Mm-hmm,
c'est toujours parler au spectateur puis lui raconter des histoires même quand il y a d'autres personnages. Puis ça, c'est très fort. Je pense que c'est une raison pour qu'on s'identifie ou on apprécie beaucoup ces films-là. Là, parce que nous aussi, on aurait pu être facilement l'employé du mois 144 fois.
Ça, c'est bien vrai. Oui, ça, c'est bien vrai. Je pense que aussi une de mes scènes préférées, je pense que ça va être la dernière, mais à moins qu'Éric en ait une autre, c'est leur atelier à fusil.
Oh oui, ben quand même.
Quand Stacy donne leur atelier à fusil à Wayne et qu'il dit cette fameuse ligne, j'aimerais vraiment ça dire ça au moins une fois par jour, mais si c'est une panoplie, je vais chier sur la moquette. Qui est vraiment pas du tout comme en anglais. En anglais, c'est « If it's a severed head, I'm gonna be very upset. » Ouais. Si c'est une tête qui est coupée, je vais être vraiment fâchée. C'est comme ça. Même pas rapport. Si c'est une panoplie, je vais chier sur la moquette.
J'ai même pas la queue d'un flingue.
T'es gueule, si j'avais quoi?
J'aurais peut-être un besoin quelconque de cette merde. Mais c'est vraiment drôle, l'histoire avec ce personnage-là. Je sais pas si t'es au courant, mais il s'est vraiment inspiré d'une de ses ex-copines,
ah, oui?
Mike
non,
Myers, qui, quand il a commencé sa carrière a commencé à lever au Canada, il se séparait d'elle, puis pour lui faire une blague, elle lui a donné un atelier à fusil, parce qu'elle s'est dit, c'est tellement absurde, il va trouver ça drôle, c'est un humoriste. Puis il a vraiment fait comme, non. Puis quand elle a vu le film, elle était vraiment, bien entendu, en beau sacramouille. Puis elle était avec son nouveau copain, tu sais. Puis Mike Myers l'a appelé pour s'excuser, parce qu'il y a eu un comeback de bêtises par rapport à ça. Elle était vraiment insultée de se faire représenter comme celle qui a gaulé les yeux, là.
Une robotouffe, en fait, une robotouffe. On va parler de la traduction française dans le prochain bloc. Il y a aussi, on en a parlé un peu tout à l'heure, on va y revenir, la musique, vraiment, dans l'univers Wayne est extrêmement importante. T'as amené les soundtracks avec toi.
Ben oui. C'est vraiment Dinosaur Junior, hein? Puis je le prononce en français parce que c'est drôle.
Norman Greenbaum. Ah, ça, c'est le deuxième. Okay,
ça, c'est le deuxième, mais le premier, on a toute une
le
série.
Le premier,
là.
Moi, je l'avais en cassette.
Ah oui, Cinderella. Oui. Qui n'aime pas Cinderella? Avec Hot and Buttered.
Ça, là, je sais pas si tu te souviens. Moi, je m'en souviens parce que c'est la scène, en fait, quand ils sont au
Gasworks.
Et
avec les pus du cul.
Ah, je me souviens
le
plus
band.
De ça. Oui, c'est vrai, moi, les géants verts. Et puis, la voix du gars de Cinderella, en fait, je pense que c'est un gars, je suis même pas sûre, c'est vraiment du Motley Crue, passé à la saccharine, là, c'est tellement pas bon. C'est du sous Vince Neil, là,
don't
déjà.
Don't know
là.
What you got till it's gone. Mais il y a du Alice Cooper, du
Fuji. Oui, il y a Feed My Friend.
Jimi Hendrix, Black Sabbath, Red Hot Chili Peppers, Bullet Boys, Eric Clapton, Rhino Bucket. On s'en souvient plus pantoute. Et du Tia Carrera. Ça aussi,
mais
ça
Tia Carrera, c'est Cassandra.
Ben oui, c'est Cassandra. Ouais. C'est Cassandra.
Mais moi, je trouve que c'est une super bonne introduction, en fait, au monde du classic rock.
Yep. Oui, vraiment. Définitivement.
Avec une tune de Black Sabbath qui n'est pas justement du Ozzy Osbourne. Là,
ben
c'est
oui,
avec un autre
changement,
chanteur.
Là.
Donc oui, c'est ça. Donc je trouve que c'est une super bonne. Puis dans le deuxième aussi, j'imagine que c'est ça.
Ben on a Aerosmith.
Oui.
On a Edgar Winter, bien entendu. Golden Earring avec Rather Love.
Oui.
Robert Plant, Louis, Gin Blossom, Superfan. Four Non-Blondes, quand même.
C'est ça qui était
Joan
très populaire
Jett.
À l'époque.
Ben oui.
Joan Jett, oui.
Ben oui, c'était à l'époque, encore une fois. Donc, puis je me souviens dans YMCA, hein. Qui ne se souvient pas de YMCA dans le deuxième épisode.
Cette scène-là, qui était
quand même,
oui.
À la boîte à outils.
Oui.
La The Toolbox. Entre hommes.
Ça, là, c'est une joke. Ma mère a dû m'expliquer. Parce que, comme, à 13 ans, là.
Allez, les nanas, allez!
Mais
la musique a toujours été importante parce que même quand il faisait les sketchs à Saturday Night Live, en revoyant justement pour l'émission, je suis tombé sur un sketch avec Tom Hanks qui joue un roadie d'Aerosmith.
Oui, c'est un des sketchs les plus connus.
C'est écœurant, c'est vraiment bon. Puis, mais il y a toujours tout le temps des personnages comme ça qui tournent dans l'entourage de la musique. Fait que, donc, c'est
indissociable. Oui, c'est une certaine époque où je pense, aujourd'hui, bon, les jeunes, là, on parle des jeunes, tout ça, là, qui sont scotchés sur leur téléphone, puis les jeux vidéo et tout ça. Mais moi, ça me rappelle que quand j'étais enfant et début de l'adolescence, c'était la musique qui était le gros... Ce qui drivait, finalement, tu sais, la culture, le marché. On se parlait en termes musicaux tout le temps. Puis moi, je suis un peu restée dans ce... Je suis un peu restée dans ce mindset-là. Fait quand on parle de jeux vidéo, je suis comme... moi, je joue encore à Tetris.
Mais je me souviens de Cinderella, par contre.
Oui, Je me souviens de Cinderella. Mais tout ça pour venir, ouais, à vraiment la grande importance de la musique. Et on va passer à une autre chanson. Justement, on a parlé tout à l'heure, c'est Dreamweaver de Gary Wright, c'est un peu difficile à dire, qu'on va écouter. C'est une chanson qui fait la transition Scooby-Doo dans les sketchs de SNL. C'était Dreamweaver qui était joué pour ces moments-là. Dans le film, c'est les moments où on voit pour les premières fois Cassandra, en fait, qui est une musicienne hard rock un peu. Elle a son band, Crucial Top, en français, Ultime Razia. Et c'est une super de belle fille, manifestement. Et donc, quand Wayne la voit pour la première fois, il tombe amoureux.
Un jour, elle sera sienne.
Oui.
Oh oui.
Oh oui. Donc, on écoute Gary Wright.
Just close my eyes again. Climbed aboard the Dreamweaver train. Trying to take away my worries of today and leave tomorrow.
Ah, les tunes avec un fade-out qu'on sait jamais quand embarquer. On va finir. Ben.
Ah, mais ça me fait des drôles de sensations, comme quand je montais la corde à nœuds.
Dans le cours de gym.
Dans le cours de gym.
Donc, justement, on va parler, pour de retour de ce bloc musical, de la traduction française, qui est absolument incontournable. J'ai un ami même qui fait écouter Wayne's World à ses amis américains, juste pour lui montrer les voix, juste pour qu'il, en fait, faire entendre les voix, parce que c'est tellement... différent, mais en même temps que je pense que toi et moi on est d'accord que c'est vraiment la version française est supérieure.
Oui, et de loin, originale. et de loin. Puis c'est vraiment, on en discutait précédemment, mais ce qui est intéressant, c'est que les traductions qui assument un côté franchouillard à ce point-là, habituellement fonctionnent pas si bien ici pour les comédies. On préfère quand même le français international quand c'est le temps de faire des comédies avec quelques petites expressions. Puis sinon, ben, c'est les traductions typiquement québécoises, ben, là, les slapshots, ces choses-là. Ouais. Mais dans ce cas-là, c'est une traduction à la française par des Français, mais à l'extrême. Mais pourtant, ça fonctionne hyper bien, même avec nous, ce qui est quand même assez impressionnant. Puis oui, c'est ça, l'adaptation comme... c'est, en fait, l'adaptation du dialogue a été faite par les membres du groupe français Les Nuls, dans lequel il y avait Alain Chabat, entre autres choses. En fait, c'est un groupe qui était dans les années 80 à Canal+. Donc, il y avait Alain Chabat, Bruno Carrette, Chantal Lobier et Dominique Farrugia. Et c'est Dominique Farrugia et Alain Chabat qui ont fait la traduction, en fait, pour les expressions françaises et puis tout ça. Donc, en même temps, je suis pas trop surpris, parce qu'on regarde qu'est-ce que Chabat a fait après en long métrage, qu'on pense à Astérix, Obélix contre Cléopâtre, mais aussi le film avec les hommes des cavernes, où il y a juste un vocabulaire étrange.
Je connais pas ça.
Fait que ça pour dire qu'ils ont quand même pas engagé des deux de pique pour faire cette traduction-là. Ils ont réussi haut la main à nous marquer.
Mais il était jeune à l'époque, là, quand même.
Oui, les années 80, donc c'était début de carrière.
Oui, c'est ça. Fait que... Oui, à l'époque, mais on ne savait pas qu'Alain Chabat allait devenir
Alain Chabat, ben oui.
Mais ils ont quand même...
Il était Alain Chabat, mais allait-il le devenir?
Mais ils ont quand même... Le coup de dé était vraiment très bien... Très
bien lancé.
Bien lancé, finalement. Je ne sais pas, c'est... Quand je pense en anglais, justement, on parlait de la scène du râtelier à fusil, pour dire à Stacy qu'elle est un peu folle, finalement. En anglais, c'est « Are you mental? » Et puis en français, c'est « T'es gueule ou quoi? » Puis le « gueule » que j'ai redécouvert récemment. Ça me fait vraiment beaucoup rire, mais je pense qu'Éric, t'as comme un dictionnaire.
Ben oui, j'ai trouvé un site de fans français du film qui ont fait ils appellent ça le « Petit Wayne Worldien Lexique ».
OK.
Donc, ça part très gérer.
Parce que même si le film s'appelle Le Monde selon Wayne, qui est une référence au Monde selon Garp, là, mais dans le film, il appelle l'émission Wayne's World, parce que c'est ça l'émission, en fait, à la télévision locale. Il appelle ça Wayne's World. Donc, il n'y a pas de traduction.
Non, il n'y a pas de traduction.
C'est le vocabulaire Wayne's World.
Ben oui, effectivement. Puis bon, étant donné que c'est des Français, c'est encore plus drôle de voir leur propre traduction, en fait, leur propre terminologie pour désigner. Donc, tout à l'heure, on parlait de la méga-bombe de la semaine. Alors, pour eux, c'est une fille qui a un tempérament atomique. Donc,
en anglais, c'est babe. Babe, ils ont traduit ça pour bombe.
Babe, une bombe. Ou encore, la top bonne, donc une fille à la plastique plus qu'irréprochable.
Quand même.
Showing, cette fille est désirable.
OK.
C'est bien. Le chapiteau, ceci me provoque une érection, donc quand même, il fallait que je puisse le plugger à un moment donné. Et le plus grand chapiteau du monde, rarement j'ai été dans d'aussi bonnes dispositions.
Okay.
Donc à l'avenir, si vous avez une date, dépendamment si elle a vu Wayne's World ou pas, vous pouvez adapter votre niveau de langage. Je vous conseille ça. Elle m'a gaulé les yeux.
Oui, oui.
Donc j'ai croisé involontairement le regard de quelqu'un qui cherche à établir le contact. Et je ne peux pas faire semblant de ne pas l'avoir vu.
C'est compliqué pour peu de choses,
finalement. Ben oui, ben
il
oui.
Il peut juste dire comme...
Mégatof, Garth.
Oui, Mégatof.
Profite de la vie, Garth.
Oui, oui.
Selon eux. Moi, je pensais que c'était faisons le party, Garth.
Ben, c'est party on, puis c'est méga fête, en fait, le verlan, finalement,
ben
Mégatof. Oui, c'est un peu... Non, on sait que t'as pogné ça.
Ben oui, et Cassos. Hein,
Cassos!
Il est temps de partir immédiatement.
Oui, oui, oui.
Et qu'est-ce que vous bites? Pardon.
Qu'est-ce que vous bites?
Quand même. Mais inspecteur, ça dit quoi? Ça, c'est une autre question également. C'est tout un merveilleux dictionnaire pour cet univers. Mais tout à l'heure, on parlait également des expressions en anglais, par contre, qui sont passées dans le langage courant.
Oui.
Par de là, la traduction francophone.
Oui, oui. Je pense à That's What She Said, qui est dit justement lorsque Wayne tient une affiche de Claudia Schiffer. Justement, il parle de Top Bun et tout ça. Et... je pense que Garth dit quelque chose, puis là, Wayne répond « That's what she said ». Et c'est une remarque, finalement, qu'est-ce que la personne a dit précédemment, faut comme l'interpréter de manière lubrique. C'est mm-hmm. ça, comme c'est ça que ça dit. Et dans The Office, la version américaine de The Office, le personnage joué par Carol.
Oui, Steve Carroll.
Steve, merci, Steve Carroll, donc le patron en fait de la boîte, arrête pas de dire That's what she said à chaque fois. Puis il y a même un montage sur YouTube de toutes les fois où il dit That's what she said. C'est vraiment très drôle. Puis à un moment, il y a un autre personnage qui le dit, puis il est comme tu l'as pas, c'est comme don't you dare. Faut vraiment pas qu'il se fasse voler son expression, que lui-même finalement vole à Wayne et Garth.
Ben oui, qui témoigne de son degré de maturité à ce personnage dans quand même The Office. Ou d'une autre, là, je sais pas trop.
les notes aussi à la fin d'une phrase, repris fameusement par Borat. Mm-hmm. Donc, mettons, je dis il fait vraiment chaud dans le studio.
Not.
Parce qu'il fait vraiment froid ici en ce moment. Ben ça vient de Wayne et Garth. En français, ça a été traduit par « nul! »
C'est nul!
Qui disent à la fin de la phrase. On l'entend bien, d'ailleurs, au début, je pense. En fait, la scène qui introduit le show de télévision locale, qui est la succotte.
Oui,
l'espèce
l'aspirateur
qui coupe les cheveux.
Il suce et ça coupe.
Oui, dommage que ça coupe. Oui, c'est super drôle. Mais il dit « Voici une invention incroyablement et totalement nulle!
» Nulle! Ah, pauvre.
Est-ce qu'on peut penser à d'autres expressions? Mais moi, je sais pas, je pense que je suis pour une réintroduction du showing.
Oui, du showing. Je pense que ça serait nécessaire dans les bars, surtout. Là. Je pense que, justement, Garth le fait à un moment donné en pleine discussion. Là. Schwing, 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 schwing. Donc, je pense que c'est quand même très révélateur. Je pense que ça mérite d'être direct. Donc, on perd beaucoup de moins de temps. Donc, réapproprions-nous le schwing.
Ouais.
Et moi, je ramènerais aussi le zarb.
Ah oh, oui!
C'est
oui,
Zarbi.
Oui.
Ça, j'aime bien ça aussi pour désigner tous ces moments dans nos petites vies où on a un petit peu d'étrangeté. Donc, parce qu'on a peur du changement, mais je pense qu'il faudrait utiliser le Zarb plus souvent.
Oui, absolument. Est-ce qu'on va passer en musique? Éric, je tiens à dire que je me suis. J'ai pu m'acheter un mini CD récemment.
Ah oui, t'as eu 5 000 $?
Absolument.
Oh, super!
Oh, Et voilà, c'est la fin de la chanson. Siki Mi... Hey, ça, là, je sais pas qu'elle va dire. Sika Mi Kaniko de Red Hot Chili Peppers.
Ben oui, tu dis que c'était un B-side d'Under
the Bridge. C'est B-side d'Under the Bridge. Ils sont allés chercher ça loin, là.
Ouais.
Puis c'était à l'époque où Under the Bridge était un succès. En tout cas, je sais pas comment ils ont trouvé ça, finalement.
Pourquoi?
Quand je dis aux gens autour de moi que Wayne's World est un des films les plus importants dans ma vie, ils sont comme « Ah ouais, cette merde-là ». Je suis comme « Non, 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 il y a vraiment un bon message dans ce film-là ». C'est un film qui parle, je l'ai raconté un peu au début, lors du synopsis, mais c'est un film qui parle du placement de produits et du danger que finalement un sponsor, un commanditaire peut avoir dans un produit culturel à détourner finalement le propos d'une œuvre. Parce qu'en fait, le deal que l'émission Wayne's World sur la chaîne, sur une chaîne, une plus grande chaîne à Chicago, c'est que il y a un bloc d'entrevues à chaque semaine avec Noé Van Der Hoff des arcades, les Arches de Noé.
Ouais, c'est cool, ouais. C'est hip, les Arches de Noé.
Il fait, oui. Puis d'ailleurs, l'acteur qui joue Noé Van Der Hoff, c'est le frère de Bill Murray. Ça, je tiens juste à le dire.
Ben
parce
ouais,
que
quand même,
Bill Murray,
ça aussi, hein.
Bill Murray est comme une figure culte de notre génération, mais hey, il y a un grand frère qui jouait dans Wayne's World. Je me rends compte avec le temps que ce message-là, justement, de ne pas tout le temps tout faire pour le pognon, comme un manic garde qui est habillé de la pied aux têtes par du Reebok,
ben
dans
oui.
Une scène, en fait, une scène qui dénonce le placement de produits, puis le fait qu'il y ait des commanditaires, puis des sponsors. Donc, c'est une scène là, vraiment qui ridiculise ça, parce qu'il y a des produits qui sont manifestement pluggés. Il y a Pepsi, il y a Doritos.
Il y a les Tylenol ou
des
l'aspirine.
Des Nuprin, oui, dedans des petites pilules.
Ouais,
Reebok,
Pizza
Hut aussi. Et justement, quand Garth est habillé de la tête aux pieds en Reebok, il dit « On dirait que la seule motivation qui reste aujourd'hui, c'est le pognon. C'est vraiment triste. » Puis c'est quelque chose, je pense, qui m'a beaucoup influencé parce qu'à ce jour, j'espère que ma seule... ce n'est pas la première motivation que j'ai à faire quelque chose, le pognon, mais plutôt la passion, bien entendu.
Oh,
comme,
oui.
C'est important pour moi de faire... d'aimer qu'est-ce que je fais et non pas seulement pour le gros chèque de paye à la
ouais,
fin.
Ça suffit pas de chier par la pine. Pour reprendre les mots de Wayne et Garth, quand même.
Oui, oui, « Monkey fly out of the butt », la version en anglais. Puis toi, le message anticorpo, est-ce que ça t'a comme marqué autant que moi, finalement?
Moi, ça m'avait extrêmement marqué. Je trouvais cette scène très drôle, mais en même temps, je comprenais, je pense que déjà jeune, étant donné que je me suis lancé dans le monde du cinéma, c'est comme j'étais déjà un peu baigné, mais je me rendais compte aussi de l'intelligence, en ridiculisant cela, de prendre... finalement cette publicité là puis de d'avoir un montant d'argent pour le film parce que c'est sûr qu'ils ont une commandite pour chaque produit qu'ils ont mis à travers le film puis il y en a d'autres aussi là quand ils commandent le cantonais à un moment donné Pinot de Chéron, Pepsi Cola
quand on est con c'est pour la vie
mais il y a plein d'autres placements comme ça au travers du film mais cette scène là aussi je trouvais ça comme encore aujourd'hui ça marque je suis ambivalent tu sais c'est comme à la fois par la dénonciation mais à la fois justement par l'utilisation parce que ça a profité puis ils ont essayé de faire une chose similaire dans le 2 mais ça a pas trop fonctionné il y a une blague à un moment donné sur la publicité mais
elle tombe
à plat comme si c'était trop déjà dépassé mais de l'autre côté, il y a un petit côté du punk de Penelope Spheeris là-dedans beaucoup, son petit côté, on est prêt avec ça, fait qu'on va le brasser, ça me faisait beaucoup penser à... En tout cas, maintenant, ça me fait plus penser à ça. Mais c'est drôle aussi parce que, tu sais, Wayne's World a créé aussi tout un monde de produits dérivés.
Absolument.
Puis dans le film, justement, c'est les Arches de Noé qui deviennent commanditaires principales. Il y a eu des jeux vidéo sur Wayne's World à la même époque. Je me souviens avoir joué, c'était pas jouable, c'était pas endurable, au Super Nintendo.
Oui, il y a deux jeux vidéo, un au Nintendo et un autre au Super Nintendo. Puis je pense que celui-là au Super Nintendo, vraiment, c'était dans la suite du film. Peut-être les deux sont sortis comme un peu en même temps.
Ouais, ils sont sortis en 93, les deux, puis dans le...
C'est à l'époque où le NES et le Super NES se chevauchaient,
puis les deux jeux sont pas pareils, parce que dans le NES, tu peux jouer Garth et tu peux jouer Wayne, tandis que dans le Super NES, tu peux juste jouer Wayne qui sauve Garth. Puis en plus, il se bat comme dans trois niveaux. Donc, le premier où il se bat contre... Il est dans le magasin de musique, il se bat contre des instruments volants. Le deuxième, il s'en va chez Stan Nikita Donut, puis il se bat contre le fameux biscuit que Garth tue.
La petite statue faite en beigne, en fait.
Puis dans le troisième niveau, il se bat contre Stacy, c'est elle, la méchante boss, qui a gaulé les yeux. Puis à la fin, il se bat contre le Xanthar, donc qui est le blob, justement, du jeu vidéo de Noé Van Der Hoff, qui raconte justement que ce jeu-là, pour les arcades, c'est un un jeu où que tu peux jamais passer le premier niveau parce que tu te fais tout temps bouffer par la bébite. Mais les gamins continuent à enlever la monnaie.
Est-ce que t'as réussi à jouer jusqu'au complet?
Je me suis pas rendu au bout. Je me suis tantané, puis c'était facile de mourir, puis tu pouvais pas comme vraiment sauvegarder.
C'est ça, parce que qu'est-ce que
j'ai regardé... au deuxième niveau, moi.
Ah oui, t'as rien pas, parce que j'ai regardé la vidéo du Angry Video Game Nerd, qui fait la critique de ce jeu-là, puis il a jamais été capable de passer le premier niveau. Il doit utiliser un cheat code pour passer au deuxième. Puis lui, c'est comme un professionnel, du jeu, là, puis il est pas capable. Fait que je me dis, comme, est-ce que c'était comme ironique de faire de recréer la situation que Noé Van Der Hoff décrit?
Je pense pas qu'ils se sont rendus là, mais si c'est le cas, bravo aux concepteurs que ça avait pris tant de temps pour s'en rendre compte. Alors, gigatoff les mecs.
Oui, absolument. Il y a eu d'autres répercussions. Oui, effectivement, il y a eu une grosse, justement, beaucoup de produits dérivés suite au film Wayne's World. Moi, j'ai vu la casquette, la vraie casquette, quand j'étais jeune, et je l'ai pas achetée en tant que personne un peu idiote. Il y a eu... mais parmi les plus grandes répercussions, je pense... On a parlé un peu tout à l'heure, les films, tous les autres films de Saturday Night Live, mais aussi et surtout la carrière de Mike Myers, qui a été très importante à partir de ce film-là. Il a fait toutes les Austin Powers durant la deuxième...
C'est pour ça qu'il n'y a pas eu troisième Wayne's World, d'ailleurs.
Aha. Durant la deuxième moitié des années 90, les Austin Powers, qui ont été un flop un peu durant leur... le premier, là, durant sa présentation en salle, mais à partir de sa carrière en VHS, d'abord et avant tout, en VHS à l'époque, qui est devenu lui aussi culte et film qui met en valeur le talent d'imitation d'accent, notamment de Mike Myers. D'ailleurs, je reviens un peu sur les débuts de Wayne's World. Mais j'avais entendu aussi Mike Myers qui disait que c'était... qu'il comprenait pas comment ça se fait que ça avait été si populaire, Wayne's World, parce qu'il faisait juste recréer qu'est-ce que son frère puis ses amis disaient dans un sous-sol au Canada. Donc, il y avait c'était très canadien. Mm-hmm. D'ailleurs, ça se passait... il faisait référence à Tim Hortons. Stan Mikita's Donuts à Chicago, c'est un Tim Hortons. C'est un ancien joueur de hockey qui couvre une place de beigne, là. C'est du Tim Hortons. La scène à Chicago, dans les rues de Aurora, qui sont habillés avec... la scène qui joue au hockey, qui sont habillés avec un chandail des Blackhawks. Mais à l'origine, c'est les Maple Leafs. C'est très banlieusard... banlieue de Toronto à l'origine, mais comme transplanté à Chicago, qui est pas très loin, d'ailleurs, géographiquement parlant. Là.
Effectivement, je pense qu'ils voulaient faire le film à la base en Ontario, justement, puis finalement, ils ont déplacé ça pour Aurora, Illinois. Scarborough, d'où il vient, Mike Myers, puis il a fait des recherches, puis il aimait le nom Aurora, puis il s'est rendu compte que c'était après la même quantité de population en banlieue d'une grande ville qui est Chicago. Ça serait logique d'appeler, de faire ça Aurora, Illinois.
Parce que la voix de Mike Myers, en fait, il change de voix pour faire Wayne. C'est pas sa vraie voix. On l'entend d'ailleurs, la vraie voix de Mike Myers dans le film. À un moment donné, il y avait un horaire d'enregistrement extrêmement chargé, comme on l'a dit un peu tout à l'heure. Et les deux sont sur... C'est la scène, en fait, où il y a l'avion qui passe par-dessus.
Ah oui, ou que t'as parlé ou t'as pété.
Oui, oui. Moi, ça, c'est la fin. Ouais. Non, ça, c'est...
C'est quand Gart, il se fâche, là, puis il dit...
C'est ça, mais avant
ça, la première fois.
L'exposition de cette scène-là, finalement.
Ah oui, entre amis.
Et là, où Gart demande, est-ce que t'as déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand elle s'appelait en lapine? Et là, Mike Myers décroche complètement, en fait. Il dit non, mais là, il part à rire, puis c'est le rire de Mike Myers, c'est pas le rire de Wayne. Mais faut le savoir, j'avoue, quand on... c'est quand on le sait, là, c'est quand on a entendu Mike Myers dire... Ou Pilly Little Piece Ferris, là, une des deux, là, qui dit... j'étais trop fatigué, j'ai ri parce que c'était super drôle là, ce que Dana avait dit, donc...
Mais c'est drôle parce que je les ai vus en français, je pense que je les ai écoutés une fois en anglais, mais en relisant pour l'émission, justement en préparation, je lisais justement que la voix, quand il fait le farfadet dans le deuxième, là, je suis le farfadet, tu m'as volé mon or, arrête, tu me fais peur. Et puis la voix en anglais, c'est la voix de Shrek, finalement.
Ah, c'est vrai!
Quand tu l'écoutes, c'est vraiment la voix de Shrek. Donc, il a développé cette voix de Shrek-là en faisant le farfadet.
Pour le farfadet.
C'est moi le farfadet.
je n'étais pas au courant de ça.
Ben ouais.
Rob Lowe aussi, qui est
Benjamin.
En fait, qui est son premier film comique. C'était comme une espèce de Charles Stars durant les années 80. Il y avait un scandale. Il a fait un sex tape avec une mineure, si je me souviens bien. Ça allait vraiment pas bien. C'est un ami de Vince Neil.
Ça lui fait pas.
C'est un ami de Vince Neil, d'ailleurs.
Ben ça explique bien des choses.
Oui, c'est ça. Et c'est comme son grand retour. Et Mike Myers et Rob Lowe ont continué à travailler ensemble justement dans les Austin Powers. Puis ouais. Aujourd'hui, il fait vraiment plus de comédie que...
Ben oui, puis en même temps, c'est un très bon casting parce que A, c'est un beau mec. B, il fait... C, il n'habite plus chez ses parents. Voilà.
En effet. mais je pense aussi qu'une grande... grande répercussion de Wayne's World, c'est à quel point, je pense, ça peut réunir des gens encore aujourd'hui. Mm. On en parle, là, ça fait... 25 ans, là.
Oh, oui, puis ça, ça a remis des groupes sur la map. On pense juste à Queen, là. C'est,
oui, mon Dieu, oui, ça.
C'est Aerosmith aussi. C'est,
on en a parlé lors de l'épisode de Queen. Ouais. C'est pour les gens de notre génération, une trentaine d'années.
Ben oui.
C'est la scène avec Bohemian Rhapsody. On n'a pas parlé parce que justement, allez écouter l'épisode de Queen si vous voulez en savoir plus. mais c'est la scène qui nous a fait redécouvrir, mm-hmm. même découvrir même Queen. Donc, qui a introduit toute une nouvelle génération à cette musique-là. Ça, c'était vraiment super important. Mm-hmm. Puis le fait de reconnaître des fans de Wayne's World, moi, ça me fait tout le temps chaud au cœur. Donc, merci beaucoup, Eric, d'avoir été là.
Merci à toi de m'avoir invité pour ce soir.
Ça fait vraiment plaisir. On va se laisser sur le thème de Wayne's World.
Gigatoff, tout le monde, hein?
Oui, Gigatoff.